L'émission de tous les voyages, c'est long cours, comme chaque mercredi jusqu'à 20h avec Maurice Efti, qui est en direct du Salon du Livre. Bonsoir.
Bonsoir, un direct comme on les aime au Salon du Livre, c'est-à-dire un direct avec un ouvrage entre les mains, avec un peu de rêve, avec une couverture et un grand sourire, un sourire indien, un sourire qui s'appelle pourtant Défi Indien. Ce soir, nous aurons le plaisir et la chance de nous partager, parce qu'au fond, quand on aime l'Amérique latine, quand on tombe amoureux de ce continent, quand on y passe des années, pour ne pas dire des décennies, je crois que Jean-Christian Spani, qui est en face de moi, en est aussi à plusieurs décennies, tout exact. Comme moi. Et je dois dire que l'Amérique latine, eh bien, c'est un peu un virus. Ça n'est pas une question d'indianité, mais au fond, il y a des mondes où l'on vit différemment, où l'on marche différemment. Et je crois que quand on touche l'Amérique latine, Jean-Christian Spani, on a systématiquement l'impression, quand on touche aussi un peu à cet art précolombien, à cette philosophie précolombienne qui va devenir ensuite, bien sûr, cette suite qui passe 1492 et qui continue à travers les Indiens, il y a à travers cette pensée, je dirais même cette religion parce que c'en est une, il y a cette impression pour un occidental de marcher la tête en bas. C'est-à-dire qu'au fond, on a toujours l'impression que le monde est totalement retourné par rapport à notre idée de l'individu, par rapport à leur idée de la communauté, par exemple.
Exactement, c'est ce qui m'a surpris dès le début, c'est que contrairement à la société occidentale qui met en relief l'individu, là-bas, quelle que soit l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud, dans les Andes ou en Amazonie, c'est à peu près partout la même chose, on met tout l'accent sur la communauté.
J'aimerais que vous me replaciez votre premier souvenir, par exemple au Pérou. Je pense que c'est bien l'endroit idéal.
Non, c'était le nord du Chili, le désert d'Atacama.
Alors dans le désert d'Atacama, vous me direz qu'effectivement il y a déjà moins de communautés au sens où je l'entendais éventuellement du côté de Titicaca où vous avez travaillé longuement aussi. Mais essayez de me reprendre votre premier choc. Il y a des choses comme ça qui remontent à cette prime jeunesse d'un connaisseur ou d'un non-connaisseur, justement. Comment est-ce qu'on ressent pour la première fois ce bain de communauté quand on arrive dans un milieu véritablement indien?
Eh bien, je suis donc arrivé dans le désert d'Atacama en 1960. Je ne savais pas grand-chose à ce moment-là sur le monde indien. J'étais presque, disons, parachuté, c'est le cas de le dire, dans une petite communauté qui s'appelait Kupo, où il y avait environ 80 habitants, pas plus. Et là, j'ai eu mon premier contact avec les Indiens. Les premiers jours, c'était un peu curieux parce que j'étais dans un lieu où on n'avait pas souvent vu des Blancs, en tout cas pas un Suisse. Et il y a eu pendant quelques jours une espèce de flottement parce qu'évidemment ces gens-là ne savaient pas à qui ils avaient affaire. C'est tout à fait normal, je n'étais pas arrivé avec une fanfare pour annoncer mon arrivée, j'étais arrivé d'une façon tout à fait inattendue et les gens m'ont mis un petit peu à l'épreuve. Je me sentais épié, pas d'une façon désagréable, au contraire, mais quand même je sentais que chacune des paroles que j'allais dire, que chacun des gestes que j'allais accomplir allait être interprété, donc il ne fallait pas mettre les pieds dans le plat. Je les ai mis une ou deux fois, certainement, parce que je ne connaissais pas encore ce monde, ni les règles d'étiquette, qui sont très strictes, comme vous le savez. Alors, mais la gentillesse des gens, disons la patience à mon égard, pendant que je faisais mes premiers pas, mon apprentissage indien, tout cela m'a séduit, m'a surpris. Et j'ai vu aussi, j'ai senti tout de suite ce sens de la communauté, c'est-à-dire que tout le monde était avec tout le monde, que c'était unanime, cette suspicion qu'ils avaient, pas du tout malhonnête, mais justifiée, parce que quand on pense à ce qu'ils ont eu pendant des siècles, il est normal que quand il va y arriver un blanc, ils ne vont pas lui sauter dans les bras en disant qu'ils l'attendaient. Malgré tout, tout cela était modéré et puis partagé. Il y avait une unanimité vis-à-vis de moi qui m'a fait comprendre que j'étais là dans un monde pas du tout fermé, comme on le croit, mais dans un monde structuré, dans un monde, comme vous le disiez tout à l'heure, très différent d'une autre, la tête en bas. J'aime beaucoup cette image parce que d'abord d'être dans un désert, c'est déjà une expérience en soi parce que ça n'a plus rien plus aucun rapport avec ce qu'on connaît chez nous. Donc il y avait déjà un dépaysement sur le plan géographique, sur le plan climatique. Et puis tout d'un coup, je me trouve également dans un monde, sur le plan humain, tout à fait nouveau.
Quand on parle de structure, c'est en fait le point majeur qui revient immédiatement dans l'esprit de quelqu'un qui, petit à petit, devient un connaisseur de l'entendement indien.
Oui.
Parce que quand on prononce la date de 1492, au fond, c'est cette incompréhension-là, cette incompréhension de communauté, d'amour aussi. Quand je dis amour, c'est au sens, je dirais même d'amateur, hein, quelqu'un qui sait aimer. Au fond, une société indienne ayant des structures qui sont très marqué, vous parliez d'étiquette, c'est même plus que cela, c'est parfois même des lois qui ont une rigueur qui me fascine par le côté extrêmement rigide justement.
Exactement.
Et, ouais. et en même temps, cette extraordinaire douceur qui a su résister à 500 ans de, non pas de colonie, mais d'écrasement. Parce qu'au fond, l'écrasement, un rouleau compresseur ne se rend pas compte qu'il écrase le macadam.
Non, vous avez tout à fait raison. Et justement, dans cette attitude un peu méfiante au début, il y avait, comme vous dites, aussi des sourires. Il y avait une espèce d'attente, je dirais, une attente sympathique à mon égard. Il devait sentir, parce que ce sont des gens, vous êtes d'accord avec moi, extrêmement intuitifs. On a beaucoup perdu, nous, de cette qualité. Et ces gens-là savent, sentent d'avance si on est un ennemi possible ou probable, parce qu'ils en ont l'habitude, ou un ami éventuel. Et je pense que souvent on m'a posé la question, comment avez-vous fait pour vous faire intégrer très rapidement dans ces communautés? Mais je pense que c'était dû au fait que j'étais d'abord moi-même, je ne cherchais pas à jouer un rôle. Je n'aime pas les conquérants espagnols, donc je n'avais rien d'un conquérant espagnol. J'étais un homme tout simple qui allait à la rencontre d'autres hommes. Et vous avez prononcé un mot que j'aime beaucoup, c'est l'amour. L'amour dans son sens, évidemment, le plus large. Et je pense qu'ils ont senti, ils ont dû sentir qu'il y avait en moi, même dans les erreurs que j'ai pu commettre au début, qu'il y avait vraiment une volonté d'apprendre, une volonté d'approche et une volonté, je dirais même, de partage.
Vous avez parlé d'intuition et au fond, c'est vrai que nous avons perdu cette acuité qui fait que la nature est capable de nous parler, qu'il y a un langage entre un nuage et nous-mêmes, entre la pluie et nous-mêmes, cette Pachamama du Pérou, parce qu'on y arrivera, ou cette divinité de la terre. Il y a quelque chose qui est assez curieux quand on touche, parce que c'est bien le terme qui convient, c'est quand on touche le monde indien, c'est cette perception des choses qui fait que tout à coup, c'est plus qu'un morceau de nature, c'est un bain de nature. L'Indien est naturellement naturel.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et vous parliez des nuages qui nous parlent, ou de la pluie qui peut nous parler, ou du vent. Eh bien, dès le début, j'étais confronté justement à un monde très, très différent du nôtre, en ce sens que les Indiens me disaient, par exemple le soir, quand nous étions ensemble, on regardait le coucher de soleil derrière les chaînes de volcans, c'était un spectacle absolument extraordinaire. Il me disait, tu entends Jean-Christian, parce qu'il tutoie très rapidement, d'ailleurs c'est très sympathique, il disait, tu entends les montagnes qui parlent entre elles. Évidemment, ça pourrait faire sourire. Mais finalement, eux les entendaient, mais nous avons perdu cette innocence. Et nous les entendons plus ou mal. À travers eux, j'ai commencé à les entendre, à les comprendre.
Est-ce que le fait de s'appeler Juan Cristobal vous gênait un peu par rapport à Colomb? Je parle du deuxième prénom.
Oui, non, je crois que ça ne m'a jamais porté ombre, je ne pense pas, parce que les Indiens auxquels j'ai raconté ce qu'avait été la conquête, parce qu'ils en ont une idée assez vague sur le plan historique, ils sont pas obnubilés par des dates ou des faits extrêmement précis. Ils savent simplement que leur monde a cessé d'exister dans une grande mesure au moment où les Blancs ont débarqué et on ne les attendait pas. Mais ça ne m'a jamais gêné.
On va laisser passer quelques vagues, juste le temps d'attendre Colomb. On est encore là et c'est vrai que la musique que nous entendions est une musique qui nous fait penser à ce calme d'un d'un 12 octobre. Je lisais dans votre ouvrage Le défi indien que vous parliez du 14 octobre 1492. Je comprends qu'on est débarqué véritablement le 14 octobre, mais j'aime aussi ce clair de lune, cette plage assez particulière, qu'on soit à Samana, qu'on soit à San Salvador. Cette idée où tout à coup, je vois ce marin, je vois aussi Colomb qui prétend l'avoir vu avant, cette lumière, ce petit rien, et puis ce sable blanc à l'horizon. Est-ce que quand vous êtes parti en 1960 sur les Amériques, est-ce que vous avez ressenti ce côté Christophe Colomb, parce que c'est quand même quelque chose. Découvrir l'Amérique, c'est un terme qu'on n'aime pas utiliser par rapport à des anniversaires, par exemple, oui, le 500e en l'occurrence. Oui. Mais tout de même, c'est une atmosphère qui fait que nous, vieux continent, avons envie de découvrir cette, je vais dire, fraîcheur, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinairement frais, on parlait de nature, dans l'attitude de l'Indien qui nous attend. On a quand même tous une image à la fois de Colomb, mais surtout de l'Indien qui l'a mal compris.
Moi, j'en ai beaucoup plus de l'Indien que de Colomb, parce que déjà...
Ça paraît normal.
Oui, déjà, avant d'aller là-bas, avant de mesurer ce qu'a été la conquête, j'avais une idée assez précise sur ce qui s'était passé. Je n'avais pas des témoignages directs, je n'avais pas de connaissances particulières sur la question. J'ai tout ça appris sur place en faisant mon apprentissage. Mais oui, j'ai senti, comme vous le dites, dès le début que j'étais d'abord dans un monde différent. Ça, c'est une vérité à la palisse. Mais comme vous dites, un monde de grand calme, de grande sérénité. Et comme on en parlait tout à l'heure, je pense que dans cette ambiance particulière qui est bien faite pour nous séduire, il y a... aussi ce fait que l'Indien vit totalement intégré à son monde. Il ne vit pas contre son monde, il n'est pas dans un désordre vis-à-vis de la nature qui l'entoure, vis-à-vis de tous les phénomènes qui se produisent, phénomènes météorologiques et tant d'autres. Il est totalement intégré à son monde et cette intégration fait que lorsqu'on commence à l'approcher, on sent qu'il s'agit d'un autre monde, je dirais même d'une autre planète. On se sent totalement dépaysé et remis à sa juste place parce que l'Indien a aussi une vision de l'homme qui est très particulière et il ne se considère pas comme étant le maître de la nature, comme étant au-dessus de toute chose, comme d'autres le prétendent. Il n'en fait que partie, il n'est qu'un élément de la nature et au même titre que les pierres, que les animaux, que les plantes, que les volcans, que les nuages.
Ceci me fait involontairement penser ou songer à quelque chose de bien précis. Vous vous êtes trouvé un jour, on arrive maintenant au Pérou, devant le mur de Sacsayhuaman. Sacsayhuaman, pour ceux qui nous écoutent, c'est bien sûr cette extraordinaire forteresse, un peu comme une dentition triple qui se trouve en dessus de Cusco et qui est non seulement une forteresse, mais on sent aussi tout ce côté divin. Il y a un côté extraordinairement nature également, avec le site qui est à côté, avec une sorte de grande griffure à travers la roche. Et puis, il y a ces cailloux-là, enfin ces monstres de jusqu'à 120 tonnes qui sont là, qui au fond me font penser à la place que vous vouliez donner à l'Indien dans son univers, c'est au fond ce côté antitellurique de la construction inca, de créer par exemple des pierres qui ont des volumétries extrêmement étranges, mais qui au fond, c'est un peu comme des cubes de glace que l'on mettrait dans son shaker, et puis vous vous mettez à faire un beau tremblement de terre, c'est-à-dire vous secouez votre shaker, et vous allez remarquer que parce que les cubes ont des formes étranges, ils reprennent pratiquement la même position.
Oui.
Alors, c'est un exemple qui m'est venu en tête au moment où vous parliez des Indiens et de leur équilibre, mais au fond, c'est un peu ça. C'est aussi de savoir que les choses ont une place dans l'univers, parce que c'est bien ça, être universel, et qu'au fond, cette place n'est faite que pour être reprise par un mouvement. Il peut y avoir cataclysme, il peut y avoir modulation et changement, mais le changement, c'est justement le fait qu'une chose recommence toujours à son heure, des circuits. Ça, c'est de nouveau la pensée totalement précolombienne.
Oui, tout à fait. Et quand vous parlez de Sacsayhuaman, évidemment, la première fois qu'on le voit, c'est un choc, parce qu'on sait bien que tout ça a été construit sans l'emploi de machines, c'était à la force de l'homme, à la force du poignet ou du bras. Mais il y a dans ces pierres énormes, vous disiez 120 tonnes, on n'en a plus l'impression lorsqu'on est devant ce mur. On a l'impression, là aussi, on pourrait parler d'une certaine légèreté. Il semble que ces blocs ont été assemblés les uns dans les autres sans aucun effort. Et on a de la peine à l'admettre. C'est pour ça qu'on a avancé toutes sortes de théories en parlant de la pesanteur ou Dieu sait quoi, des rayons laser et Dieu sait quelle bêtise de ce genre-là. On a l'impression que ça nous dépasse parce que nous, il nous faut des choses beaucoup plus, je dirais, plus brutales. Il nous faut attaquer la nature, il nous faut découper les pierres pour reconstruire nos maisons. L'Indien, non. L'Indien utilise des matériaux qui sont proches de lui, qui sont proches, j'entends pas dans la distance, mais dans la compréhension de la nature. Et pour lui, que ce soit des blocs de 120 tonnes ou bien, vous le voyez au Cusco, des murs où il y a au contraire de toutes petites pierres, mais qui s'emboîtent les unes dans les autres d'une façon extraordinaire, on a l'impression de la légèreté dans les deux domaines, dans les deux sens, dans les deux exemples.
Donc on revient à un mot qui est un mot-clé, et je tiens au mot-clé aussi, c'est le respect.
Le respect.
Le respect est quand même quelque chose qui, dans l'architecture précolombienne, parce que bon, là nous sommes en train en même temps de feuilleter le défi indien, cette histoire des peuples mayas, nous sommes encore chez les Incas, c'est le second volet. Et un ouvrage où vous dites, Jean-Christian Spani, non seulement comme archéologue, non seulement comme ethnologue, mais vous dites aussi que ce respect que l'Indien a de lui-même et de la nature est justement à mettre... face, en fin de compte, à notre irrespect à nous. Parce que le respect, ça peut être le simple fait d'aménager, et ça je crois que c'est très inca, c'est peut-être même plus inca que maya. Le maya avait envie de faire des plateformes, de créer quelque chose avant de mettre une pyramide. L'inca, ce qui est fabuleux, quand on est à Machu Picchu, par exemple, il n'y a aucun langage sculpté, il n'y a rien qui nous parle, mais en même temps, on se dit, tiens, là, on a utilisé cette roche, on a utilisé comme une gemme, on l'a mise en valeur avec un simple mur autour. Ouais. C'est plus que du respect, c'est vraiment le savoir-faire pour que la nature soit encore plus belle et plus nature. Donc une roche, on la laisse affleurer.
Voilà.
Un rocher naturel peut devenir une grotte superbe. On rajoute des pierres qui suivent exactement la ligne.
Oui.
Moi, j'ai un côté corporel comme ça.
J'ai parlé dans un de mes anciens livres, j'ai parlé de conspiration entre l'homme et la nature. On a l'impression, justement, vous prenez le cas de Machu Picchu qui est frappant, qui est significatif, on a vraiment l'impression que l'homme et la nature, l'homme et la pierre, si j'ose dire, ne font qu'un.
Quand vous êtes à Machu Picchu, quand vous retournez à Machu Picchu, est-ce que vous arrivez sur place à redeviner, parce qu'on devient à peu près colombien, là vous avez, on parlait de décennies tout à l'heure, quand on arrive à écrire un ouvrage, plusieurs ouvrages comme vous l'avez fait, eh bien finalement on a quand même quelque chose à l'intérieur de soi qui se transforme. Et bizarrement, ça n'est pas dans le cerveau, c'est bien sûr dans l'estomac, ou plus exactement dans la tripe, parce que l'Indien, c'est ça aussi. Hein. C'est cette matière qui fait que la compréhension est d'abord magique, et non pas cérébrale. La compréhension est d'abord sensible, et non pas matérialiste, ou en tout cas cartésienne. Et alors, à partir de là, quand vous pénétrez dans un site comme Machu Picchu, vous le faites partager, comme il m'arrive de le faire aussi, est-ce que vous arrivez à retrouver le circuit mental et ce circuit presque sensible de l'Indien de l'époque, de l'Inca?
Je vous avouerai que ce n'est pas facile. C'est une démarche que j'ai essayé de faire à plusieurs reprises, seul ou accompagné. Je sens des choses, je sens un message, je sens, je dirais même une présence à Machu Picchu. Pour moi, Machu Picchu n'est pas morte, ce n'est pas une cité qui est finie, qui est morte, qui est ensevelie. Au contraire, elle me semble qu'elle a encore énormément de choses à nous dire, elle est vivante. Et on peut, sans aller trop loin dans l'imagination, on peut quand même essayer de reconstruire un petit peu ce qu'a été Machu Picchu à l'époque où cette ville était habitée. Habitée, on ne sait pas trop par qui, là les opinions diffèrent. Les uns prétendent que c'était uniquement qu'une ville de sanctuaire. Je veux bien le croire, vu cette situation exceptionnelle qui est là. Et puis sa beauté, une beauté qui dépasse la beauté. C'est une beauté qui va plus loin, comme vous le disiez. C'est une beauté, on met tout en relief parce que la nature est belle en soi et...
Je vous pose quelques instants sur un caillou. On se met juste à l'entrée, là, vers les paysans, ou éventuellement à cet endroit de garde où l'on n'a que les sommets, avec un tout petit rien de neige à l'horizon. Oui. Tout est vert. Le brouillard monte doucement, mais le soleil ne va pas tarder à poindre. Vous venez de terminer la piste Inca. Il fait beau. Il va faire beau aujourd'hui. We'll be right back. un nouveau monde. Je vous ai forcé, Jean-Christian Spanier, à vous asseoir sur cet étrange... Vous y êtes ?
Oui.
Allez-y, décrivez-moi l'endroit.
Sur la fameuse Intihuatana, cette pierre dont on dit qu'elle est peut-être une horloge solaire ou une pierre de sacrifice. Enfin, on n'aura jamais de décrire cette pierre qui, pour moi, est assez extraordinaire parce qu'elle est dans un décor tout à fait irréaliste. Irréaliste par la pierre, irréaliste aussi par tout ce qui l'entoure et irréaliste aussi par la géographie. Parce qu'il faut reconnaître que ce qui est extraordinaire aussi à Machu Picchu, c'est le lieu. C'est ces montagnes en forme de pyramide tout autour, c'est cette alternance de pluie et de soleil qui revient. On sait que lorsque le temps se garde, ça ne va pas durer. Le soleil est nouveau là, il est brûlant. Nous sommes tout près de la forêt amazonienne. On la sent parce qu'il y a des brouillards qui montent. Il y a là aussi, de nouveau, je reviens à mon fameux mot qui n'est peut-être pas exact, mais enfin qui traduit bien ma pensée, c'est une conspiration, là aussi.
Machu Picchu, je crois que c'est peut-être le point culminant de votre conspiration entre nature et homme.
Oui.
Au fond, quand on est sur l'Intihuatana, moi j'aime bien la traduction quechua d'Intihuatana, l'endroit où l'on attache le soleil.
Hein. Oui.
Mais à part cet attachement à la pierre, aux choses, je vous dirais que par ce côté magique, on n'a pas besoin d'avoir forcément une solution. Et vous avez dit plusieurs fois sentir.
Oui.
Parce qu'au fond, ça, c'est encore ce tact indien qui fait que tout se sent et que tout se comprend par le sentiment. Mais au fond, quand vous construisez un ouvrage comme celui que j'ai sous les yeux et que, bon, nous sommes arrêtés maintenant à l'époque de Machu Picchu, qui est un endroit qui a été abandonné volontairement ou involontairement, on peut remonter la vallée sacrée, se trouver à Ollantaytambo, aller jusqu'à Pisac, qui est un site que vous devez apprécier beaucoup avec ses terrasses, avec cette allure sur cette vallée sacrée qui est peut-être un peu moins chaude que Machu Picchu. On était à 2000 tout à l'heure, on a pris le train, on est monté jusqu'à Ollantaytambo, j'en parlais, avec quelques cascades d'eau, et puis ensuite on a peut-être utilisé la voiture ou le bus pour grimper un peu plus haut. Mais au fond, quand on arrive par exemple à Pisac, non pas dans la vieille Pisac qui ressemble aussi à Machu Picchu, mais qu'on descend dans ce village que l'Espagnol involontairement au départ, mais brutalement aussi, a construit sur la partie la plus agricole, la plus riche, ce que n'aurait jamais fait un Inca qui respectait trop le sol, bien sûr, se mettre dans la plaine alluvionnaire. Imaginons, pour ceux qui nous écoutent, imaginons le Valais. Une belle vallée comme celle du Rhône, jamais on n'aurait construit Martigny, Sion et toutes ces villes dans la plaine du Rhône si on était un cas, parce que c'est le seul endroit où l'on va pouvoir cultiver.
Exactement.
Donc ça, c'est encore du respect, c'est encore ce sentiment de la nature.
Oui.
Et quand vous arrivez dans un endroit comme cela, à Pisac, le dimanche, le marché a changé, je crois que c'est le dimanche.
C'est le dimanche, oui. Très touristique.
Un peu trop,
un peu trop.
Est-ce que vous ressentez ce même phénomène? Est-ce qu'on peut passer, disons, du pré-colombien, ce qui est avant l'arrivée de Colomb, de Cortés ou de Pizarro chez les Incas, et au monde d'aujourd'hui? Est-ce que dans votre travail sur le défi indien, vous avez l'impression qu'il y a une continuité, ou est-ce que ces gens sont les déshérités?
Moi, je préfère dire qu'il y a une continuité, parce que déshérités, c'est les condamnés définitivement, me semble-t-il.
Est-ce qu'ils sont condamnés?
Dans certains cas, peut-être, oui. Il faut reconnaître que toute l'Amérique latine, centrale ou du Sud, nous offre une mosaïque de populations. Certaines se défendent très bien, sont encore pleines d'orgueil, dans le bon sens du terme. Numériquement, sont bien représentées, ce qui est aussi un atout pour l'avenir, pour le futur. D'autres, évidemment, vous connaissez les hauts plateaux des Andes comme moi, là, il y a des communautés vraiment où la vie est déjà difficile, elle a toujours été difficile. Ce n'est pas la faute de l'Espagnol, c'est la faute, si j'ose dire, la faute de la géographie. Enfin, les lieux sont inhospitaliers, même pour un Indien. D'ailleurs, eux-mêmes l'avouent, même s'ils y sont attachés, parce que l'Indien, vous le savez, est attaché à sa terre natale d'une façon viscérale, d'une façon extraordinaire. Ça aussi, par respect. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des groupe qui, peut-être vu l'évolution de la situation dans ces différentes républiques d'Amérique latine, j'ose pas dire qu'ils sont condamnés, mais quand même, où on peut espérer moins que d'autres, numériquement bien représentés, qui vivent dans des conditions certainement meilleures, où la terre est quand même plus fertile.
Dans votre idée du défi indien, je vous coupe volontairement, dans l'idée du défi indien, on pourrait par exemple, il nous reste une bonne demi-heure, après une pause musicale tout à l'heure, on pourrait par exemple reprendre quelques exemples. Je sais pas, j'imagine comme ça, vous choisirez vous-même, mais Otavalo, Chichicastenango, faire des sauts de puce entre le monde maya que vous avez traité aussi, et ce monde inca dont nous parlions tout à l'heure, et éventuellement voir, que ce soit en Équateur, ou au Guatemala, ou au Mexique, voir justement quelles sont les différentes facettes de cette possibilité, non pas du 20e, mais alors là, carrément du 21e pour ce monde indien.
Oui.
Vous étiez presque un peu trop optimiste, à mon avis, tout à l'heure.
Un petit peu trop optimiste. Parce qu'on m'a reproché souvent d'être trop pessimiste, alors je cherche un juste milieu. Je dois dire que les expériences que j'ai faites également en Amazonie, parce que j'ai eu l'occasion d'y aller trois fois, ce n'est pas ma spécialité, je n'aime pas le mot, mais enfin disons que je n'écrirai jamais un livre sur l'Amazonie, je le laisse à d'autres qui ont beaucoup plus de mérite que moi, mais le peu que j'ai vu, et j'ai quand même vu beaucoup, là m'a rendu très pessimiste. J'ai l'impression qu'il y a des groupes d'Indiens, surtout ceux dans ces contrées tropicales, qui sont menacés, peut-être pas d'extinction définitive, mais... Est-ce qu'on ne va pas créer ce que les jésuites ont fait au Paraguay, des réductionnaires, c'est-à-dire des camps,
des réserves.
Des réserves, oui. Mais est-ce que c'est l'avenir vraiment d'un peuple de vivre dans une réserve? Je ne pense pas. On voit ce qui se passe aux États-Unis.
Sans vouloir choisir d'abord des endroits, est-ce que vous pensez que dans la globalité de l'Amérique latine, puisque nous sommes assis dans le stand d'ailleurs, puisque nous sommes au Salon du Livre, dans le stand même de l'Amérique latine, est-ce que vous avez l'impression, après tant d'années d'expérience, que définitivement les années 50 sont mortes, les années 60 aussi, le moment de l'indigénisme où on s'occupait de l'Indien, où on voulait parler dans sa langue, où on voulait lui apprendre les choses dans sa propre langue, est-ce que tout ceci, qui se résume quand même par l'intégration au système économique de toutes ces nations américaines, est-ce que ça ne signifie pas obligatoirement que tous ces gens-là seront métissés demain matin?
Alors là, oui, si nous touchons le problème du métissage, je crains que dans la plupart des cas, ils devront faire le pas. Et c'est un pas vers nous, mais ce n'est pas un pas que nous pourrions faire vers eux. Parce que,
c'est vrai.
Parce que la situation est telle qu'aujourd'hui, on ne peut plus revenir en arrière. Rêver d'une nation indienne de nouveau, d'un empire inca ou maya, ça n'est plus possible.
Même si on pense qu'en remettant les membres de l'inca en place et en recréant le chiffre 5 sacré, on pourrait refaire l'empire. Mais par contre, dans l'idée du métissage, c'est déjà une conclusion, mais on a encore une demi-heure pour la mettre en doute. Dans cette idée du métissage, est-ce qu'on peut rester dans sa tête indien? J'entends, toute la philosophie qu'on vient d'évoquer, est-ce qu'elle peut rester en place? Est-ce qu'on peut encore être en contact avec une nature qui a quelque chose de mythique quand même?
Oui, moi j'ai l'impression que, c'est peut-être terrible à dire, mais que le métissage détruit beaucoup chez l'Indien. Beaucoup de cette connaissance instinctive qu'il a de la nature, ce respect, il devient un être un petit peu en équilibre sur une corde. Il ne sait pas très bien de quel côté il va tomber. Il a renoncé déjà à son indianité puisqu'il est plus ou moins métissé. Les métis, vous le savez, ne l'acceptent pas encore comme tel parce qu'il est encore trop indien. Il y a donc toute une série de passages entre l'indien pur et le métis complètement métissé, si j'ose dire. Mais ces transformations successives ou ces mutations successives, comme beaucoup de mutations, sont négatives.
Elles sont négatives. On reprendra peut-être l'exemple de l'Amazonie. C'est un peu comme si on était Colomb, Cortés ou Pizarre. On détruit à l'instant. Et puis, il y a cette histoire qui a déjà duré 500 ans et qui continue dans certains endroits.
Oui.
C'est vrai que je crois que l'idée de reprendre quelques exemples qui correspondent à votre ouvrage, Le défi indien, l'histoire des peuples maya et inca, qui est paru chez Cabelita. C'est une belle collection sur les archives vivantes. Je pense que c'est quelque chose qui fait non seulement réfléchir, mais qui touche aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on est prêt à être touché par ce genre de message.
J'ai remarqué depuis deux jours que je suis au Salon du Livre que les gens qui m'approchent, qui même sans acheter mon livre, mais qui le feuillettent, m'ont peut-être aussi connu à travers la radio, à travers la télévision, sont marqués, sont plus, beaucoup plus sensibles, si j'ose dire, qu'il y a une dizaine d'années. Vous savez que, comme vous, je suis conférencier aussi. Et il y a eu des moments où, quand je donnais des conférences, où j'essayais d'être très direct, où je n'étais pas compris. Maintenant, j'ai l'impression que je suis mieux compris.
Les temps changent.
Les temps changent, heureusement.
La suite de l'encours dans quelques instants, toujours en direct du Salon du Livre. Le temps de vous rappeler que si vous désirez vous procurer ces l'encours, il vous suffit de vous adresser au deuxième étage de Confédération Centre ou de les appeler au 312 10 00. Vous écoutez Radio Lac, 4 minutes s'ajoutent à 19h30.
Un défi indien, si je vous demandais de me donner un endroit de ce monde américain, on peut changer éventuellement à partir du Pérou ou du Chili où nous étions tout à l'heure. Il y a des fêtes, il y a des cérémonies, il y a des moments magiques qui nous touchent tellement profondément qu'on se sent presque ébranlé pour la vie. Et ça, c'est quand même terriblement propre au monde indien plus qu'au monde métis.
Tout à fait. Ça, on le ressent. Par exemple, vous parliez tout à l'heure de Chichicastenango.
Allons-y. Donc,
c'est un haut lieu du tourisme, d'accord, mais il y a autre chose. Il y a bien davantage que cela. Ça se trouve donc au Guatemala, au centre du Guatemala, dans une nature magnifique. Et là, deux fois par semaine, le jeudi et le dimanche, si j'ai bonne mémoire, il y a des rites mayas très complexes. D'ailleurs, on ne va pas en parler maintenant parce qu'il nous faudrait une émission entière. Mais enfin, ce qui est surprenant, c'est que ces rites mayas ont lieu dans une église que les Espagnols avaient construite et consacrée à Saint Thomas. Et les Indiens se sont appropriés cette église, contre le clergé d'ailleurs. Ils ont bien fait parce que finalement, ils étaient chez eux. Ils n'avaient pas d'accepter une nouvelle religion. La leur suffisait. Ils avaient leur morale, ils avaient leurs étiquettes, toutes leurs règles d'étiquette. Et ils ont occupé cette église et ils en ont fait un temple maya, entre guillemets, je dis ça. C'est pas, ça n'a pas la splendeur des ruines mayas qu'on peut trouver ailleurs en Amérique centrale. Mais malgré tout, ils ont ajouté quelque chose à ce temple, d'ailleurs sur le plan architectural, qui ne présente rien de très spécial. C'est colonial, mais disons...
Il y a des choses qui touchent.
Mais des choses qui touchent, et puis surtout tout ce qui s'y passe. C'est ça qui m'a profondément bouleversé, parce que du moment où vous gravissez ces escaliers en suivant cette foule qui prie, qui balance des petites boîtes de conserve, on met du copal et qui dégage une fumée.
Il faut qu'on refasse l'image, là, parce que je vous suis fort bien. J'ai d'ailleurs l'odeur dans le nez.
Oui, tout à fait.
Vous avez en bas des marches un cube de pierre, de briques, de ciment. Et puis, au petit matin, un Indien est venu. Il a ouvert quelques feuilles de maïs. Et puis, il en a sorti des morceaux comme des cookies. Vous voyez, des gros pains comme ça. Et ce pain, il est fait d'écorce de copal. Oui. Le copal, c'est un arbre qui pousse dans la jungle du Guatemala. Il a lancé ses premiers pains, il a allumé le feu en même temps avec le maïs sec, enfin l'enveloppe du maïs. Et puis, pour la journée entière, ce feu va être allumé un feu sacré. Oui. Et puis ensuite, moi, je les compte chaque fois. Vous montez les marches jusqu'au sommet, il y a 18 marches. Oui. Et puis on arrive sur une plateforme arrondie. Vous y étiez tout à l'heure avec ces cassolettes, je sais pas, une boîte de sardines avec un fil de fer. Il y a quelques années encore, vous vous rappelez, il y avait des encensoirs en terre, superbes. Voilà. Oui. Bah, ce sont des encensoirs. Bien sûr.
Ce sont
et sur du simple charbon de bois, on a jeté un peu d'encens, un peu de ce copal qui est en résine en fait. Oui. Et c'est vrai que l'odeur, c'est quelque chose d'éblouissant ça ouvre l'esprit comme ça.
Oui. Et j'avais demandé une fois à une Indienne, justement, qui balançait son petit encensoir. Je lui dis pourquoi cette fumée, pourquoi ce copal. Alors elle m'a dit parce que la fumée qui se dégage emporte nos prières vers le ciel.
Je pense que c'est juste. Puis au fond, on pourrait être, le Salon du Livre, c'est au moment du printemps. On vient de changer de saison. Cette fumée qui monte vers le ciel, elle rappelle celle des volcans. Elle rappelle les nuages qui vont se former dans le ciel. On va planter le premier grain de maïs dans les champs. C'est le moment où on va faire le brûlis. Ce brûlis qui rappelle d'ailleurs le feu qui monte vers le ciel.
Oui.
Ce sont des images comme ça qui se collent de façon un peu... On vient de rentrer dans le monde maya.
Oui.
Qui est un monde
très différent des Incas.
Quand même très différent, moins rigide.
Oui.
Avec des amalgames qui font que c'est une langue encore plus agglutinante, comme ça. On a l'impression que toutes les choses se parlent les unes aux autres.
Vous ne pensez pas que cette douceur maya qu'on trouve moins chez les Incas, ce n'est pas pour les critiquer, parce que chaque homme, chaque femme a ses qualités et sa manière d'être. Mais peut-être que je me trompe, mais la géographie a peut-être joué un rôle dans le modelage de ces personnalités, parce que les manières vivent quand même dans une nature exubérante et dans une terre qui est quand même assez prodigue suivant les endroits. Le pauvre Inca accroché à sa cordillère des Andes en 3-4 000 mètres d'altitude est moins gâté, ça il faut le reconnaître. Alors vous ne pensez pas que ça a pu forger aussi, je pense aussi à l'Aymara des hauts plateaux boliviens, qui est un homme dur, pas, je ne le critique pas, dur dans le bon sens du terme, c'est-à-dire difficile à approcher.
Je crois qu'on vous interprète parfaitement. Ça veut dire par là qu'au fond, c'est vrai que si on vit en tant que montagnard dans la Suisse primitive ou qu'on est sur une plage avec des cocotiers, il est vrai que l'environnement doit changer un peu les choses.
Oui.
On a pris l'exemple de Chichicastenango. C'est un exemple intéressant parce que c'est une communauté qui sait se battre aussi, économiquement parlant. Mais on a... Là, je sais que je vais vous titiller parce qu'au fond, on vient de mettre en route deux fois, involontairement, en parlant de Pissac. ce marché indien du dimanche, là-bas au fond de la vallée sacrée, près de Cusco. On vient de mettre en marche le jeudi et le dimanche ce deuxième marché de Chichicastenango. Et nous venons de nous mettre en marche en tant que touristes, en tant qu'accompagnants de touristes. Et au fond, c'est quand même aussi un rouleau compresseur terrifiant, le tourisme, non?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Surtout le tourisme de masse. Parce qu'encore, il y a deux touristes, c'est pas pour justifier ce que j'ai fait ou ce que vous faites, pas du tout, nous n'en sommes plus là. Mais évidemment, la seule présence d'un blanc, déjà, serait de trop. Mais alors, comment faire pour les connaître si on n'y va pas? On est devant un dilemme, donc on est bien obligé d'y aller. Ce que je regrette, c'est que le tourisme ait pris des dimensions d'une industrie, voilà. On aurait pu, dès le début, mais de nouveau, là aussi, il y aurait beaucoup à faire, on aurait pu faire un tourisme intelligent, c'est-à-dire vraiment une rencontre d'hommes avec d'autres hommes.
La question piège quand on parle du défi indien. La photographie, il y en a dans votre livre. Le sourire de l'Indien de Pissac en couverture le dit bien aussi. Quand on parle tourisme et qu'on parle photo, il y a quelque chose qui m'intrigue toujours. Est-ce que vous ressentez aussi, ce que ressentent peut-être ceux qui nous écoutent, est-ce que vous ressentez cette agression, cette volonté de posséder qui est la nôtre?
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Mais je dois dire à ma décharge, je ne cherche pas à me justifier, mais je n'ai jamais pris de photos sans la permission des gens qui ont été photographiés. Je ne parle pas du paysage. Mm-hmm. Mais du moment où, comme le portrait qui illustre mon livre, où vraiment c'est un très bel exemplaire de Quechua, il a fallu vraiment, d'ailleurs il ne sourirait pas comme il sourit, s'il avait été obligé ou si j'avais donné des sous, parce que ça c'est horrible.
Il y a en tout cas une complicité. Voilà. Vous voulez dire que ces choses-là ne s'achètent pas, c'est vrai.
Non, exactement.
Jean-Christian Spani, est-ce qu'on peut toujours être honnête? Vous parlez du défi indien, vous défendez un peuple qui n'est pas le nôtre, des idées qui ne sont pas les nôtres. Est-ce qu'on peut, en tant qu'ethnologue, en tant qu'archéologue, être à la fois au four et au moulin? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vivre sur deux mondes? Parce qu'au fond, on peut houspiller, comme je le fais parfois, et là je suis un peu cru, comme vous l'avez fait parfois, ça m'est arrivé de vous suivre aussi dans des conférences. Est-ce qu'on peut tout à coup critiquer notre façon de vivre du blanc, et puis en même temps le toucher du pied? Là je parle de l'Indien. Est-ce qu'on peut être sur les deux bords sans avoir cette ambiguïté dont on parlait tout à l'heure?
Moi je pense qu'on a une certaine ambiguïté, je l'avoue, en toute franchise.
Est-ce que vous l'avez toujours accepté?
Écoutez, le fait de défendre les Indiens m'est venu pas tout de suite. Je suis allé dans ce désert d'Atacama, puisque c'était le début, mon apprentissage, en 60. Et j'y suis allé invité par l'Université de Santiago comme archéologue. Donc je n'avais eu qu'une pensée en tête, c'est faire des fouilles et y trouver quelque chose. Et c'est grâce aux fouilles que j'ai approché le monde indien, puisque j'avais besoin d'aide. Je n'aime pas parler d'ouvriers, mais d'aide. Je les ai choisis parmi les Indiens qui étaient tout enchantés d'ailleurs de connaître mieux leur passé. Ben, je leur expliquais en quoi consistait l'archéologie. Je ne cache rien chez les Indiens. Je leur dis exactement quelles sont les envies que j'ai de faire, de réaliser quelque chose. Si je fais une photo, je leur demande la permission. Quand j'ai parlé des fouilles, je leur ai dit, il ne s'agit pas de sortir des momies pour les profaner, mais vraiment de mieux comprendre ce qui s'est passé.
On va peut-être laisser passer une page musicale. J'ai envie de vous faire sortir la première momie du désert d'Atacama. Parce qu'au fond, c'est aussi assez symbolique d'aller chercher, en tant qu'archéologue, quelque chose que vous allez montrer à des vivants en tant qu'ethnologue. Juste un petit son. Oui, la voix est déjà là, on s'entend déjà, on a l'impression que ce petit rien de musique, eh bien, c'était une façon... Je suis toujours intrigué par le côté fouille. Mmh. Et votre exemple pour les momies, c'est quand même quelque chose d'assez intriguant. Là, je me mets à la place de tout un chacun. Quand pour la première fois, on voit sortir du désert, d'une de ces tombes, une vraie momie bien séchée, bien conservée, avec cette magie, ça n'est une autre.
De nouveau.
La conservation du textile. Voilà. C'est l'impression de trouver le morceau de ouate, de se retrouver devant le moment où on a posé cette petite coupelle. Il y a un côté éternel dans ces momies du Pérou, parliez du Chili oui. ou du désert d'Atacama, quand même, c'est aussi un viol, là, quelque part.
Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, quand j'ai fait mes études d'archéologue, je me rappelle toujours, j'ai eu le privilège de travailler avec le vieux Pitard, qui était le fondateur du musée d'ethnographie à Genève. C'est un homme qui m'a beaucoup marqué et il me le disait quand j'étais encore un gamin, pratiquement en culotte courte, je fréquentais déjà le musée parce que ça m'est venu très tôt tout cela. Il m'avait dit « N'oublie pas que nous sommes des profanateurs ». Et il avait tout à fait raison et j'ai le sentiment lorsque je fais des fouilles, y compris avec des gens de l'endroit, qu'il y a une sorte de profanation. Mais de nouveau, c'est comme tout à l'heure, on parlait du tourisme. Si on n'y va pas, on ne les connaîtra pas. Si on ne fait pas de fouilles, on ne connaîtra pas le passé.
Ça n'est pas une formulation très indienne, parce qu'au fond, l'Indien ne se préoccupe pas,
non,
du savoir,
pas du tout.
De ce savoir-là.
Mais quand même, il est intéressé, parce que j'ai fouillé énormément, donc au Pérou et puis surtout au Chili au début. J'ai toujours eu avec moi 8 à 10 collaborateurs, je les appelle collaborateurs, ou amis, ce que j'aime encore mieux, qui étaient tous des Indiens, et ils étaient quand même fascinés de voir qu'avant eux, on faisait déjà des objets comme ils en faisaient. Par exemple, vous parliez des étoffes, eh bien, il y a une manière de tordre les fils, il y a le nombre des fils, etc., qui correspond à peu près à ce qu'ils font encore aujourd'hui. Et ils étaient les premiers à être séduits, à être enchantés de voir que leurs ancêtres, auxquels ils ne donnent aucun nom, c'est le passé, c'est des abuelos, c'est les grands-parents, enfin, on leur donne toutes sortes de noms sympathiques, de noms affectueux, avaient déjà découvert ces techniques de travail. Donc, et il y a aussi ce que je dirais pour ma décharge, c'est que lorsque je sortais des momies d'une tombe, soit collective ou alors des tombes individuelles, je remettais tout en place après, pas les objets bien entendu, il faut quand même les garder pour les étudier, et puis ça fait partie du patrimoine du pays dans lequel on fait les fouilles. Je n'ai rien emporté, ça jamais. Mais les momies elles-mêmes, les cadavres, comme d'autres archéologues les laissaient à côté de la tombe, je trouve ça monstrueux. Alors j'avais quand même au moins ça à ma décharge, c'est que je réenterrais les morts dans leur dernière sépulture finalement.
Ça c'est l'exemple pour les vivants en l'occurrence. On a traversé assez rapidement l'idée d'une période coloniale. On est depuis un instant bien plongé dans ce 20e siècle. On a pris deux exemples de marchés avec le tourisme. Il y a, je sais pas, vous connaissez Otavalo?
Oui, bien sûr, j'ai passé quelques mois, oui.
Alors, Otavalo, c'est naturellement l'Équateur. C'est quelque chose qui me touche beaucoup parce qu'on voit beaucoup d'Otavalenos ici.
Dans le monde entier.
Oui, mais à Genève, quand on les trouve dans les rues basses en train de jouer et avec leurs tresses dans le dos, on se dit qu'il y a quand même des Indiens qui savent se défendre chez eux, qui ont appris à connaître l'extérieur et qui, au fond, savent se comporter dans un milieu complètement métissé.
Oui, et ils restent eux-mêmes. Mm-hmm. Ce qui est remarquable chez les Otavalenos, parce que j'en ai connu même lorsque j'étais au Japon, j'en ai rencontré dans les rues de Tokyo, et Dieu sait si ces pauvres gens apparemment étaient perdus, pas du tout. Ils restaient eux-mêmes, ils étaient dignes. Ils n'avaient qu'une envie, c'est de retourner chez eux, mais ils avaient fait le voyage. Pourquoi ? Pour faire du commerce, pour aller vendre leurs étoffes qui sont superbes d'ailleurs. Et pourquoi pas ?
On va faire une parenthèse, si les Otavalenos peuvent devenir japonais, pourquoi pas ?
J'aimerais bien que ce soit l'inverse.
Je suis d'accord. Voilà, j'ai dit parce que j'avais envie de dire comme si on, on redémarrait sur une ponctuation après cette ambiance musicale qui m'a fait songer une fois de plus à de l'eau. On est un peu touche à tout dans cette immense Amérique indienne, mais ce sont souvent des exemples contradictoires qui décrochent comme ça le petit rien au fond de la mémoire, au fond des sentiments. Et je crois qu'au fond, le monde indien, c'est d'abord une histoire de cœur. Et quand on traverse le lac Atitlan, on est toujours au Guatemala, et qu'on aborde à Santiago, Atitlan, que vous connaissez sûrement aussi, j'avoue que lors de mes derniers passages, j'ai eu le cœur un peu ulcéré par rapport à cette idée d'indianité, parce que j'ai vu pleurer un chef de confrérie religieuse, un chef qui s'appelle catholique, mais qui ne l'est pas, ça tout le monde le sait. C'est vraiment le Maya dans son rituel Maya, avec Machimon, cet étrange sculpture.
Personnage,
que vous me décririez encore mieux que moi, mais j'imagine maintenant le fait de ce confrère religieux qui, de but en blanc, se met à pleurer parce que tout fiche le camp, parce que ses rites s'achèvent, parce que sa confrérie se défait, parce qu'il ne trouve plus les confrères pour recréer cette pyramide de pouvoir religieux, tout simplement parce que à Atitlan, qui, je sais pas, il y a peut-être 1000 habitants à peu près lorsqu'on y arrive, là je parle de l'agglomération, du centre cérémoniel, eh bien on m'a annoncé dernièrement qu'il y avait 17 églises protestantes.
Oui, c'est effrayant.
Pour un seul village, 17 oui. sanctuaires différents, oui. avec des Indiens qui touchent de l'argent de la part de ces églises.
Bien sûr, ils sont payés.
Et c'est bien que vous le confirmiez, parce que je crois que c'est important. Je crois que le deuxième revenu économique du Guatemala, ce sont les oboles versés par les Américains pour les églises protestantes.
Oui.
Là, j'ai l'impression que c'est plus 1492, c'est carrément une nouvelle bataille. C'est après 500 ans, une nouvelle invasion.
C'est un néocolonialisme, tout à fait. Moi, je l'ai vu dans la forêt, par exemple. J'ai vécu pendant quelque temps chez les Chipibos, qui se trouvent dans la forêt péruvienne. Et là, à Pucallpa, je me rappelle, il y a un quartier où il y a des missions protestantes, il y a aussi quelques catholiques parce qu'ils ne sont pas meilleurs. Et tous, chacun annonçait devant lui, nous sommes la vérité. Alors il y avait une trentaine de vérités dans ce village. Alors l'Indien là devant ses vérités.
Vous passez de Santiago Atitlan à Pucallpa, mais au fond, quand on est dans un... Bon, là, c'est vrai, voilà une autre scène. J'imagine ceux qui nous écoutent avec des images complètement différentes. On part des volcans du Guatemala et de ce lac sublime. Et puis voilà qu'on se retrouve en pleine Amazone. Et là, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à l'Amazone. C'est qu'on a l'impression qu'on touche des gens qui sont encore plus fragiles parce qu'ils n'ont pas été touchés ou très peu touchés. Alors, tout à coup, se trouver face... Vous parliez de ces 30 baraquements,
oui.
30 églises avec 30 naturellement...
Églises 30 vérités.
30 oui. slogans différents, oui. ce sont voilà. les slogans. Les catholiques sont moins visibles parce qu'au fond, on a l'impression qu'ils ont toujours été là,
oui.
après 500 ans.
C'est juste.
Et
c'est
puis
juste.
Que les missionnaires font du prosélytisme, c'est certain, oui. mais ont l'impression que ça n'est plus ce prosélytisme de la première heure.
Non.
Mais quand on a 30 baraquements comme cela, on a l'impression que ce sont des usines de destruction.
Voilà.
Aussi.
Voilà.
Comment est-ce que vous considérez le culte protestant, puisqu'on est dans la capitale de Calvin? C'est vrai qu'il y a un côté très, très récurrent dans cette nouvelle religion par rapport aux catholiques qui ont permis quand même une certaine conservation.
Très austère. Oui.
Mais comment est-ce que vous seriez un Chipibo, vous-même, Jean-Christian Spani, en tant qu'ethnologue, en tant que quelqu'un qui a du cœur, comment est-ce que vous réagiriez contre ce genre de choses si en plus je vous paye pour cela?
Très mal. Très mal. Parce que on n'achète pas les âmes. On respecte d'abord. Et le protestantisme est-il plus destructif que le catholicisme? Peut-être à l'heure actuelle, comme vous le disiez, le catholicisme l'a été pendant toute l'époque coloniale. Ça, personne ne pourrait dire le contraire aujourd'hui. Il a évolué, certainement. J'ai l'impression que le protestantisme est en retard sur ce plan-là. Et continue encore à penser comme on pensait il y a 50 ans. Il y a aussi une chose que j'ai remarqué, c'est une influence énorme des sectes américaines.
Elles sont omniprésentes.
Elles sont omniprésentes et qui ont de l'argent, qui ont des moyens extraordinaires. Je me rappelle, je reviens de nouveau, si vous me permettez, dans la forêt, de nouveau à Pucallpa, là, dans la forêt amazonienne. Il y a tout près ce qu'ils appellent l'Instituto Linguistico de Verano, c'est donc l'Institut Linguiste d'été. C'est au fond une espèce de CIA, mais religieuse. Et j'ai vécu une semaine dans ce camp de missionnaires pour voir, pour critiquer, il faut tout voir, forcément.
Pour analyser les processus.
Mais c'était lamentable, parce que ces gens-là... qui était venu pour aider l'Indien, n'en parlait pratiquement jamais. Il y avait un petit hôpital où c'était marqué « For white people only ». Donc je crois qu'on comprend tous, pour les Blancs seulement. Est-ce que c'est ça, la charité chrétienne?
Est-ce qu'il y a quelque chose de diabolique aussi dans le fait qu'on s'attaque d'abord, quand on a ce genre de prosélytisme en main, et qu'on s'attaque d'abord au plus faible, parce que l'Indien, c'est quand même le plus faible?
Ah oui, toujours, toujours. Et puis on lui crée des besoins. Et à ce moment-là, on le tient dans un état de dépendance. C'est une manœuvre très habile, finalement. Quand on a les moyens, on le tente, peu à peu, c'est un peu la carotte au bout du bâton, on lui dit voilà, et puis peu à peu on arrive à des conversions, on sait ce qu'elles valent.
Surtout quand on est payé.
Surtout quand on est payé.
Une plage de réflexion. Sur ma musique préférée à Loncourt, c'est vrai que Il y a un petit rien de bandoneon. On a l'impression que...
On est toujours sur place.
Ben oui, on est là. Et j'aimerais qu'on attaque un peu en quelques secondes le vif du sujet, parce qu'au fond, une conclusion lorsqu'on écrit un livre comme Le Défi Indien, Jean-Christian Spani, c'est quand même quand on est en Amérique latine, parce que je crois qu'il y a des visions aussi qu'on n'a pas de l'extérieur. Quand on vit en Europe, on ne s'imagine pas ce que c'est que d'être profondément latin. On serre le poing. Il y a quelque chose de curieux. C'est quand même une des plus longues colonies du monde. C'est quand même quelque chose qui est terriblement européen en même temps, hein. Ce bandoneon, on peut être argentin comme on peut être indien. Mais en même temps, on a envie d'être soi. Donc on a envie de protester. Ça se fait peut-être un peu moins aujourd'hui, c'est moins visible, mais au fond, le bouillonnement intérieur de ce continent, qu'il soit purement indien, qu'il soit métis, parce que le métis sait aussi qu'il vient du monde indien.
Oui.
Il ne peut pas nier l'indien, il essaye de ne pas le faire. Il ne peut pas nier le blanc, il essaye de ne pas le faire. Quelle est votre position par rapport à la protesta, enfin aux protestations, et puis en même temps à ce futur métis étrange?
Oui. Moi, je pense qu'il y a, donc, comme je disais tout à l'heure, des groupes qui sont condamnés, disons carrément le mot, à plus ou moins long terme. D'autres qui se défendent bien. On a cité les Otavaleños, il y a les Mayas en Amérique centrale, au Guatemala. Il y a vraiment un retour vers la personnalité de l'Indien qui est assez extraordinaire, même au Pérou, même dans les endroits assez souvent déshérités sur le plan géographique, donc sur le plan de la vie
ou
économique. Mais il y a de plus en plus, et ça, j'ai été très frappé, des mouvements de protestataires, de mouvements revendicateurs extrêmement vifs, qui sont nés sur place là-bas d'une façon d'abord désordonnée, parce que les leaders parlaient chacun une langue différente. Il ne faut pas oublier que les Indiens ne parlent pas qu'une langue. Depuis les États-Unis jusqu'à la Terre de Feu, il y a des dizaines de langues, pour ne pas dire des centaines, comme en forêt. Donc ces mouvements au début ont été un petit peu anarchiques, chacun défendait son groupe, mais pas en rapport avec le groupe d'à côté.
On est bien d'accord, vous ne parlez pas du sentier lumineux ni de ce...
Quelle horreur, non.
Ok, il faut mettre l'auditeur en place aussi.
Non, pas du tout, au contraire, il a fait trop de mal.
On s'est bien compris.
Oui, on s'est bien compris.
Je vous laisse continuer sur l'idée de ces premiers mouvements.
J'ai vu naître ces premiers mouvements sur 20 ans, puisque j'ai passé 20 ans là-bas, et ils ont pris une forme de plus en plus marquée, de plus en plus authentique, parce que les Indiens ont fini par communiquer entre eux. Et je crois que ce qui a joué le grand rôle dans ces mouvements revendicateurs, c'est l'appui des Nations indiennes des États-Unis, qui étaient beaucoup mieux préparées, qui ont de l'argent, parce qu'il faut de l'argent pour tout aujourd'hui, vous êtes d'accord. Et alors, il y a une sorte de poussée là, qui est venue du Nord, bénéfique, et j'ai assisté en 1977, je m'en rappellerai toujours, au premier congrès indigéniste qui avait lieu à Panama. J'avais été invité comme
observateur.
Comme observateur, oui. Et évidemment, je n'avais pas le droit de prendre la parole dans les débats, mais c'était pas mon intention. C'est un Indien à régler lui-même ses problèmes. Et de cette réunion apparemment modeste au départ, il est né un mouvement beaucoup plus grand. Quelques mois après, ici aux Nations Unies à Genève, il y a eu la première conférence internationale de toutes les nations indiennes. Alors, depuis le Canada jusqu'au Chili, jusqu'à les Araucans, beaucoup de communautés n'étaient pas représentées parce que les gouvernements ne voulaient pas les laisser venir à Genève. Parce qu'évidemment, tout allait être déballé, si j'ose dire, tout allait être mis sur la table, toutes les souffrances, toutes les vexations dont ces gens sont les victimes quotidiennement, aujourd'hui comme hier et encore demain certainement. Mais là, il est né un grand mouvement protestataire, appuyé par les organisations non gouvernementales. Et je mets beaucoup d'espoir. C'est pour ça que j'ai parlé du défi dans mon livre. Je termine sur ce chapitre-là. Je mets beaucoup d'espoir, puisque je les aime, dans ces mouvements revendicateurs qui arriveront quand même, peut-être pas à changer ce qui est inévitable, mais au moins à quand même permettre à l'Indien de même métisser, de conserver quand même une grande partie de son identité.
Est-ce que vous croyez qu'on est pro-indien aujourd'hui aussi par nostalgie, parce qu'on a perdu notre nature à nous?
Moi, je pense.
Parce que vous avez, au cours de cette heure, touché plusieurs points et dit qu'il y avait des contradictions dans une existence. C'est vrai qu'on a pu être plus violent et plus arrogant sans être compris à une certaine époque. Et je dis ça en toute simplicité et avec la force que ça représente et la qualité que ça représente. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les gens qui écoutent ce côté pro-indien le font aussi peut-être avec... comment est-ce qu'il faut dire cela? Avec un peu trop de sensibilité.
Oui, il ne faudrait pas que ça soit de la sensiblerie. Mm-hmm. Non, il faut regarder les choses telles qu'elles sont, avec, je dirais même, une certaine froideur, sans fermer son cœur, pas du tout. Mais il ne faut pas non plus céder à une espèce de nostalgie. Je me rappelle, quand j'étais petit, vous aussi certainement, on jouait aux Indiens. Pourquoi on jouait aux Indiens, pas à d'autres peuples de la planète? Parce qu'on sentait déjà, en étant enfant, on sentait que chez l'Indien, il y avait une connaissance des choses, une connaissance de la nature, une manière de vivre tout à fait exceptionnelle. C'est pas pour rien que les petits blancs jouaient aux Indiens et on commençait à faire du camping et les mouvements scouts et tout le reste ont été très inspirés par la vie de l'Indien.
C'est quand même assez étrange que l'on ait envie, qu'on ait eu envie historiquement des cowboys, en fait, ou en tout cas de ceux qui ont fait la grande aventure du Far West, parce que toute l'Amérique est un Far West à sa façon. Oui. Est-ce que justement ce côté de la nostalgie indienne, c'est peut-être aussi un apprentissage qui donnerait à notre monde à nous, à notre côté occidental. Est-ce que ce serait pas un peu le retournement de 1492 en nous disant, écoutez, pensez-y, la nature, c'est un arbre, oui. un rocher.
Mais vous ne pensez pas que dans tous ces mouvements écologiques que nous avons chez nous, nous savons que la planète est menacée. J'espère qu'elle n'est pas foutue, régulièrement parlant. Mais en tout cas, elle est drôlement menacée. Est-ce que là aussi, il n'y aurait pas à prendre beaucoup de l'Indien pour commencer à respecter notre monde ?
Ah, je pense que cette simple idée du nuage, voilà. De la pluie...
Écoutons parler les montagnes.
Oui, ce sont vos volcans de tout à l'heure, oui. Là-bas, du côté d'Atacama. On a réenterré nos momies, voilà. on a remis les choses en place. Il reste juste un petit rien dans le fond de la tête, celle de Jean-Christian Spani, la vôtre, la mienne. We'll be right back.